Chers auditeurs, chères auditrices, nous continuons la deuxième série concernant l'importance de la rédemption. Nous aurons cinq petites études et je vous les cite, ces cinq, on peut dire, cinq petits titres. Le premier, le tombeau vide. Le deuxième, la résurrection de Christ. Le troisième, le vase d'huile. Quatrièmement, la promesse du Père. Et cinquièmement, l'œuvre du Saint-Esprit. Nous commençons par la première petite étude. L'évangile de Luc, au chapitre 24, verset 5, nous parle du tombeau vide. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Saint Luc, chapitre 24, verset 5. Dans sa mort, Jésus a été avec les riches. Dieu a voulu laisser au monde la preuve de sa résurrection. C'est pour cette raison qu'il a inspiré à Joseph d'Arimathée la pensée de consacrer son tombeau neuf à la sépulture du Seigneur. Si Jésus avait été enseveli dans la fosse commune, ça aurait été ainsi, n'est-ce pas? Eh bien, il nous manquerait aujourd'hui la preuve formelle de sa résurrection. Donc, Dieu le Père a bien dirigé les choses, et c'est donc exceptionnellement que, à la dernière place de sa vie, avant de mourir et de mourir, eh bien, Dieu a préparé un riche, Joseph d'Arimathée. Les femmes qui sont allées chercher Jésus au tombeau, elles ne croyaient pas entièrement, pas absolument, à la Sainte Parole, puisque, voyez-vous, elles sont venues avec des parfums et des aromates pour embaumer le corps du Sauveur. Elles sont venues, certainement, avec un cœur rempli d'amour, ça c'est certain, mais aussi avec une certaine incrédulité. Pourquoi la pierre a-t-elle été roulée par l'ange? Était-ce pour permettre à Jésus de sortir du tombeau? Eh bien non, réfléchissons ensemble, car il n'était plus du tout assujetti à ce qui régit la matière. Il n'était pas nécessaire que la pierre fût roulée quand il sortit du tombeau. Les anges roulèrent la pierre tout simplement pour donner à ces femmes la première preuve de sa résurrection. Il fallait donc chercher Jésus là où il avait donné rendez-vous. Quand je vois des gens s'agenouiller devant un crucifix, dans certaines chapelles ou même cathédrales, j'ai parfois envie de leur demander « Mais, voyons, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? » Je répète, quand je vois des gens s'agenouiller devant un crucifix parfois même avec Jésus dessus, voire même en or, eh bien j'ai envie de leur demander, chères sœurs, ou chers frères, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je vous le demande. Alors, aujourd'hui, nous le cherchons en nous. C'est en nous qu'il faut le chercher. C'est autour de nous également. Mais aussi près de Dieu le Père, dans les lieux célestes, il est près de Dieu le Père. Il est là pour intercéder pour toi comme pour moi. Lorsqu'une âme est séparée de celui qui est la source de la vie et qu'elle n'a pas une réelle communion avec Dieu, elle est spirituellement morte. Je m'explique. Prenons une personne qui n'en a rien à cirer, un mot d'aujourd'hui, qui n'en a rien à cirer de Jésus-Christ. Une telle personne est spirituellement morte. Eh oui, le corps est vivant, d'accord, mais l'esprit est mort. Cette personne, sans le savoir, elle est une personne morte ou, si vous voulez, un mort vivant. Oui, c'est pourquoi, de nos jours, le monde est un vaste tombeau et une pierre qu'il est bien difficile de remuer ferme donc l'entrée de ce sépulcre. Le monde est un tombeau immense qui est rempli de cadavres. La pierre de la condamnation en ferme l'entrée. Mais gloire à Dieu, de ce que pour quelques-uns, la pierre a été roulée. Notez Romains chapitre 8 versets 1 à 4. Là il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi puisse être accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Chers amis, pour nous, la pierre, elle est roulée et le tombeau est ouvert. Nous avons pu ainsi sortir de cette vie de mort. De même que Jésus a laissé une évidence de sa résurrection, le tombeau vide de même nous aussi, comme chrétiens, nous devons laisser une évidence de notre résurrection. On ne voit pas généralement les vivants fréquenter les morts. Qui se ressemble, s'assemble. C'est la raison pour laquelle nous nous rassemblons en tant de circonstances, spécialement chaque dimanche. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Nous devons laisser dans le monde un tombeau vide. Nous devons laisser l'évidence de notre résurrection. Je connais quelqu'un qui autrefois allait jouer au casino. Il n'y va plus du tout, car il a laissé un tombeau vide. Chaque samedi soir, un autre allait prendre sa place, oui, sa place dans son tombeau habituel. Le cinéma, les discos, les boîtes de nuit, les boîtes échangistes et j'en passe. Maintenant, son tombeau est toujours là. mais il est vide. Gloire à Dieu. Si quelqu'un vous demande la raison pour laquelle vous ne fréquentez plus vos anciens amis, répondez-lui, « Maintenant je suis vivant et je ne vais plus avec les morts. » Laissez donc les morts dans leur tombeau. Écoutez cette recommandation des Saintes Écritures. Notez 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà la pierre de touche pour reconnaître une âme véritablement vivifiée. Saint Paul écrivait ceci également dans Éphésiens au chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 7 de Éphésiens chapitre 2. Il dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, et selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Éphésiens 2, versets 1 à 7. Regardons tout ce qui se passe ici-bas, mais toujours au point de vue de l'éternité et de la gloire de Dieu. De même que Jésus-Christ est monté au ciel et a laissé son tombeau vide, de même, il nous faut laisser dans le monde nos tombeaux vides. Il faut que le monde puisse dire de nous, il ne vient plus ici, car il est inutile de le chercher parmi nous. Il nous faut être avec Jésus-Christ, mort, ressuscité et glorifié. Deuxièmement, nous avons la deuxième petite étude qui est intitulée « La résurrection corporelle de Christ ». La résurrection du Seigneur, elle est une partie très importante de notre foi. Il est écrit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 14. On peut dire, en ce qui concerne la résurrection corporelle, que notre foi est véritablement établie, il s'agit là d'une partie intégrale de notre foi. Voyons maintenant l'importance de cette résurrection. Jésus lui-même en a parlé plusieurs fois. Il est le premier homme sur la terre qui ait pu donner un rendez-vous de l'autre côté du tombeau. Les autres conducteurs de religions diverses ont conduit leurs adeptes jusqu'au bord du tombeau, mais pas un seul n'est revenu de l'au-delà, tandis que Jésus-Christ a donné un rendez-vous à ses disciples après sa résurrection. Dans Saint Jean, au chapitre 2, versets 19 à 21, vous pouvez lire « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs, ils ont dit « Oh là là, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. » Et toi, tu prétends qu'en 3 jours, tu le relèveras. Un temple est une habitation de Dieu. Et autrefois, Dieu habitait dans son temple à Jérusalem. Mais quand Jésus est venu, il a été le seul temple qui était l'habitation de Dieu. Certes, Jésus aurait pu construire un temple de pierre en 3 jours. Cela aurait été un miracle, un très grand miracle. Mais sa résurrection, lui, cette résurrection, elle a été bien plus glorieuse encore. Personne n'est revenu de la mort par sa propre puissance. L'exception, elle est bel et bien uniquement de Jésus-Christ. Et cela prouve qu'il est plus qu'un simple homme, car il est le Fils de Dieu. L'auteur de la mort, c'est Satan. Et pour revenir de la mort, il faut être plus grand et plus fort que Satan. Or, il n'y a que Dieu qui est plus fort, plus puissant que Satan. Et Jésus-Christ était Dieu. Voyez le premier message de l'apôtre Pierre dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 24 à 31. La résurrection est le point saillant dans le témoignage des apôtres. L'apôtre Pierre expliquait la parole de Dieu. La résurrection était aussi bien prophétisée que les détails de la passion. Le psaume chapitre 16, verset 10 nous dit « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Or Jésus-Christ est revenu du tombeau et son corps n'a pas senti la corruption. L'apôtre Paul pouvait dire « Nous sommes témoins de sa résurrection. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3 jusqu'au verset 8. Il a été vu par Céphas, il a été vu par les 12 apôtres, puis ensuite, il a été vu par plus de 500 frères en une seule occasion. Quant à moi, j'accepte le témoignage de ces 512 chrétiens et je crois que Jésus-Christ est ressuscité. La résurrection du Seigneur, elle est un gage de la nôtre, car cette résurrection du corps est le triomphe final de Jésus sur son adversaire. Voyez le côté typique de cette résurrection. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis maintenant, à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Notez Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2. Le monde a vu Jésus-Christ pour la dernière fois à la descente de la croix. Quand il ressuscita, il ne se manifesta pas au monde, c'est tout à fait normal, mais il se manifesta uniquement à ceux qui avaient cru, qui avaient confiance en tant que c'était ses enfants nés de nouveau, qui ont compris qu'il ressusciterait, qui ont eu confiance, qui ont eu la foi. Et c'est donc à ceux-là qu'il a apparu. Il en est de même aujourd'hui, car pour connaître Christ ressuscité, je dis bien, il faut avoir accepté tout simplement la grâce et le salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas accepté le sacrifice de Jésus-Christ pour vous-même, vous ne pourrez pas connaître Jésus ressuscité. Pour moi, la vie chrétienne commence au moment où, humble et contrit, on s'approche de la croix de Jésus et quand on accepte de mourir avec lui. Il faut regarder à la croix de deux manières. Il faut d'abord voir le Seigneur Jésus expirant sur le bois. Il faut voir ses mains percées à cause de nos mauvaises actions. Il faut voir ses pieds percés parce que les nôtres nous ont conduits tant de fois sur le sentier de la corruption. Son front couronné d'épines parce que le nôtre abrite une intelligence souillée par le péché. Il faut voir Jésus-Christ crucifié à notre place. Et il faut aussi se voir crucifié avec Jésus-Christ, alors que par sa mort, nous pourrons entrer enfin dans sa résurrection. On prêche beaucoup la mort à soi-même, mais après avoir réalisé cette mort, il faut arriver à la résurrection. Il faut de la vie et de l'action parmi les enfants de Dieu. Quand Dieu ressuscita Jésus-Christ, on a pu se rendre compte que son corps était parfait, mais les marques de ses blessures étaient cependant restées visibles. C'est Jésus avec un corps glorifié qui est maintenant dans la gloire. La puissance que Dieu a manifestée le jour de la résurrection est encore parmi nous et à notre disposition aujourd'hui même. C'est la puissance du Saint-Esprit. Il est écrit, Jésus-Christ est ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 4, verset 25. Quand Jésus a été ici-bas, il parla comme jamais on n'avait parlé. Et vous pouvez vérifier Saint Jean, chapitre 7, verset 46. Ses paroles, quoique parfaites, ont été parfois sévères et difficiles à comprendre. Il en est de même de nos jours. Moi-même, il arrive qu'il y a des choses que je ne comprends pas du premier coup quand je lis certains passages. Il m'arrive d'être obligé de prier pour que l'Esprit Saint m'inspire à me faire comprendre, à m'aider à comprendre. Jésus-Christ a apporté aux humains une doctrine nouvelle qu'on ignorait avant lui. La vérité a été prouvée au monde entier par la résurrection de Jésus d'entre les morts, et sa parole a reçu de Dieu le sceau de l'inspiration divine. Quand on accepte la parole de Jésus-Christ comme si elle était l'unique vérité, la vérité, on est obligé de la suivre. Les héros et des martyrs sont volontairement morts pour leur opinion ou leur croyance, mais ils ne sont pas revenus d'outre-tombe, tandis que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Dieu sauve tous ceux qui croient dans le sacrifice expiatoire et substitutif de Jésus-Christ. Pour être justifié, il faut croire à la résurrection corporelle de Jésus-Christ. C'est pas plus compliqué que ça, voyez-vous? Maintenant, nous arrivons à la troisième petite étude concernant la servante n'avait rien d'autre qu'un vase d'huile et bientôt vide. Deux Rois, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Chers amis, un serviteur du Seigneur venait de mourir. Et voilà que sa veuve, j'en sais quelque chose, puisque ça m'est arrivé que ma merveilleuse épouse est morte il y a maintenant 20 ans par erreur médicale. Ça a été terrible. Heureusement que j'avais le Seigneur. J'avoue que sans cela, je l'avoue, il ne faut pas avoir honte d'avouer, je ne serai plus là. Alors sa veuve restait avec deux enfants et il y avait une dette à payer. Or, voyez-vous, dans le pays où demeurait cette famille, il existait une coutume particulière au sujet du paiement d'une dette. Le créancier pouvait se payer en prenant comme esclaves les enfants du débiteur. C'était affreux. C'est ce que le créancier de la veuve s'apprêtait à faire, car elle n'avait pas de quoi pouvoir payer. La détresse de cette pauvre femme était profonde et bien des enfants lui seraient ravis bientôt. Bientôt, on allait les enlever et elle resterait seule, totalement seule, avec sa grande douleur. Or, elle a eu la sagesse. L'inspiration est venue de Dieu le Père. Oui, elle a eu la sagesse de se rendre auprès de l'homme de Dieu qui était Élisée. Et pour cela, afin de pouvoir le consulter à ce sujet, à ce grave problème, car elle savait que cet homme hors norme, homme de Dieu, je dis bien, allait pouvoir l'aider. Et elle lui exposa sa situation qui semblait désespérée. Or Élisée demanda simplement « Qu'as-tu dans la maison ?» ta servante. Voici la réponse, ta servante n'a rien du tout, rien à la maison, que un petit vase d'huile. Il n'est pas dit un petit ou un grand, disons un vase d'huile. Alors il lui dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre seulement. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront encore pleins en plus. Deux Rois, chapitre 4, versets 3 et 4. Alors la femme, elle avait confiance totale, une confiance non pas aveugle, mais une confiance qui lui venait du cœur, du plus profond du cœur, de son esprit et de son âme. Elle se mit en devoir d'obéir à Élisée en envoyant ses deux enfants dans le village pour chercher carrément le plus grand nombre possible de vases. Au bout d'un certain moment, les enfants sont revenus avec une collection de vases de toute espèce, de toute forme et de toute grandeur, et les rangèrent sur le sol auprès de leur mère. J'aime à croire qu'ils commencèrent par les plus petits. Puis, ayant fermé la porte, la veuve prit le vase d'huile et commença à en verser dans un vase. Les deux enfants se sont demandé ce que leur mère voulait faire, et ils ont regardé avec beaucoup de curiosité. Et voici que le premier vase a pu être rempli et il restait de l'huile dans le vase. Le second vase a été également rempli et il restait toujours encore de l'huile dans le vase. Et cela a continué jusqu'à ce que le dernier vase fût plein d'huile. À ce moment, l'huile cessa de couler. Que faire de toute cette huile? Ah, car il y en avait. La veuve alla poser la question à Élisée, qui lui répondit simplement ceci. Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Deux Rois, chapitre 4, verset 7. La dette de cette femme a été ainsi payée et son avenir totalement assuré grâce à son obéissance et à sa foi. D'abord à son obéissance, car si elle n'avait pas obéi à la parole du prophète de Dieu, elle n'aurait pas eu, jamais eu, un grand nombre de vases à sa disposition. Ensuite, également à sa foi, car si elle n'avait pas commencé à verser l'huile dans les vases, le miracle n'aurait pas pu se produire. Dieu répond toujours à l'obéissance et à la foi, car il faut toujours ces deux choses ensemble, l'obéissance et la foi. L'une sans l'autre n'ayant aucune valeur. Certains n'obtiennent pas la guérison tout simplement parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, d'autres parce qu'ils n'ont pas la foi. le Dieu qui subvient aux besoins de cette femme est mon Dieu et mon Père. Il est votre Dieu et également votre Père. Et sa loi, croyez-moi, elle est encore la multiplication et non pas seulement l'addition. Aussi petit que puisse être le commencement, tout ira bien si Dieu est dans l'affaire. Une conversion conduit à d'autres conversions. Une guérison peut conduire à d'autres guérisons. Gloire soit donc rendue à Dieu, notre Père, et à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. La Sainte Bible nous montre que Moïse était un homme timide et il éprouvait des difficultés pour s'exprimer. Et lorsque Dieu lui donna l'ordre de faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël, il hésita et il essaya de se soustraire à cet ordre à cause de sa faiblesse. Mais Dieu, ayant montré sa puissance en changeant en serpent la verge de Moïse, alors là, il accepta enfin sa mission. Avec cette verge et la puissance de Dieu, il a pu faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Avec cette verge, il ouvrit le chemin à sec au travers des eaux de la mer Rouge. Il a vu se refermer ces mêmes eaux qui ensuite ont englouti les Égyptiens, lesquels y furent noyés. Finalement, cette verge a été déposée dans l'arche de l'Alliance lorsque le tabernacle a été construit. Dieu se sert des choses faibles pour accomplir ses desseins immenses. Vous voyez quelle est votre vocation. Il n'y a pas peut-être, il n'y a pas de peut-être parmi vous, mais il y a des réalités parmi vous. Il y a parmi vous beaucoup de sages qui sont selon la chair, ni ayant une puissance extraordinaire, ni peut-être beaucoup de noblesse, mais écoutez un peu ce que dit la Sainte Parole de Dieu. Il dit que Dieu a choisi les choses folles, donc la plupart d'entre vous, les choses folles du monde, moi y compris, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses fortes du monde pour confondre les faibles. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin, voyez-vous, afin que nulle chair puisse se glorifier devant Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 28 et 29. Voyez donc le petit garçon avec ses 5 pains d'orge et ses 2 poissons dans le fameux chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. Après que Jésus a béni ses pains et ses poissons, il y en a eu assez pour nourrir 5000 personnes. Un peu, on peut dire, un peu, même très peu, il y avait donc très peu dans les mains de Dieu. Et ce très peu dans les mains de Dieu peut servir à faire de très grandes choses. Rappelez-vous, ces misérables petits pains, ces deux misérables poissons, mettez donc votre peu que vous avez entre les mains de Dieu et laissez-le avec cela faire ce qu'il veut. Vous serez étonné du résultat. Dieu peut et il veut agir pour nous, même dans nos besoins matériels, comme l'argent et même la nourriture. On peut toujours, avec les récits de l'Ancien Testament, trouver une application spirituelle dans le Nouveau Testament. Voyez-vous ? Notre époux, qui est l'époux de l'Église, c'est le Seigneur. Il est parti et ne nous laissant ni or, ni argent, ni richesse terrestre. Il est parti sans rien nous laisser. Comme un peu le mari de cette femme, il a laissé même une dette. Regardez autour de vous, voyez les hommes, les femmes et les enfants prêts à être pris dans un esclavage éternel, et cela par Satan le créancier. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous a laissé pour liquider cette dette ? Il a laissé seulement une chose à son Église, un vase d'huile. Or, dans les Saintes Écritures, c'est pas seulement moi qui le dis, dans les Saintes Écritures, l'huile est toujours un type du Saint-Esprit. Et c'est le seul héritage que Jésus a laissé à ses disciples pour racheter ses enfants. Il y a plus de 2000 ans, en réponse aux prières de ses disciples, Dieu commença à verser l'huile céleste sur l'Église de Jésus-Christ. Des vases humains, oui, des vases humains de toute espèce et de toute forme et de toute grandeur ont été remplis du Saint-Esprit et avec cette puissance, ils ont commencé leur ministère de salut et de guérison. Ils s'en servirent. Ils se sont servis aussi pour remplir d'autres vases de l'huile d'allégresse. Pour vous donner un exemple, dans le chapitre 3 des Actes des Apôtres, nous trouvons le cas d'un homme impotent de naissance qu'on mettait tous les jours près de la porte du temple. On pense que le Seigneur Jésus était sans doute passé plusieurs fois devant cet homme, mais il ne l'avait pas guéri. Il avait laissé cette dette. Il avait laissé là une petite dette. Voilà que Pierre et Jean, étant passés par là, comme leur demanda donc tout à coup un homme, il leur demanda une aumône. Quand ils sont passés près de lui, cet homme a demandé une aumône. Or voilà que l'apôtre Pierre lui dit, regarde-nous un peu. Et comme l'homme regardait attentivement, car il s'attendait à recevoir une petite pièce de monnaie. Or là, Pierre a ajouté, « Tu vois, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Par le Saint-Esprit, Pierre liquida en ce moment même cette petite dette que Jésus avait laissée. L'homme se mit debout d'un seul coup et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Aujourd'hui, je crois que Dieu veut donner encore de cette huile. Et si vous êtes un vase vide, vide de toute mondanité, et prêt à recevoir le Seigneur, il vous remplira du Saint-Esprit, de l'huile d'allégresse céleste. Il a besoin de vases de toute espèce pour atteindre son but. Et si vous dites comme Ésaïe, « Me voici Seigneur », il vous prendra par la puissance de son Saint-Esprit. Vous pourrez l'aider à liquider, carrément liquider, la grande dette et le salut des perdus et la guérison des malades et des infirmes viendront à vous et vous, au nom de Jésus-Christ, en son Saint-Nom uniquement, vous pourrez les aider. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire remplir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 6 et 7. Nous arrivons à la quatrième petite étude où il est parlé de la promesse du Père. Notez Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Dans le livre du Lévitique au chapitre 23, l'Ancien Testament mentionne sept fêtes de l'Éternel. Quatre de ces fêtes ont été remplacées par celles du Nouveau Testament. Les trois autres s'accompliront lors des événements à venir. La fête des trompettes sera l'enlèvement de l'Église, celle des expiations sera le rétablissement du grand pardon d'Israël, celle des tabernacles sera le règne de Jésus-Christ sur la terre au milieu de son peuple. Voyons plus particulièrement la fête de la Pentecôte. Elle devait avoir lieu 50 jours après Pâques où, afin d'ôter nos péchés, Jésus-Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. L'expérience de la Pentecôte est la plus bénie des expériences spirituelles après la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit et elle se trouve réalisée lorsque, par la foi en la mort expiatoire de Jésus sur la croix, nous recevons le pardon de nos péchés. Par la nouvelle naissance, nous obtenons tout ce qui est nécessaire pour être reçu à notre mort, c'est-à-dire dans la maison du Père. Mais par le don du Saint-Esprit, nous recevons le pouvoir de vivre une vie chrétienne victorieuse et puissante, glorifiant notre divin Rédempteur. Le don du Saint-Esprit prouvait donc aux apôtres que Jésus-Christ était à la droite du Père et que tout pouvoir sur la terre et dans les cieux lui était conféré. Pour nous, le don du Saint-Esprit est le sceau de notre rédemption. C'est le témoignage que Dieu vient habiter, qu'il vient pour habiter dans nos corps et pour y faire sa demeure. Corps, âme et esprit. À la Pentecôte, plusieurs phénomènes ont accompagné la réception du Saint-Esprit et ont accompli les promesses du Sauveur. Dans son entretien avec Nicodème, Jésus avait parlé du Saint-Esprit comme étant semblable à un vent qui soufflait où il voulait et comme il voulait. Ce fut donc, tout d'abord, comme un vent impétueux que le don de Dieu se manifesta. Jean-Baptiste avait annoncé que Jésus baptiserait du Saint-Esprit et de feu, et des langues de feu, séparées les unes des autres, se posèrent sur la tête de chaque disciple. Certains nous reprochent de ne pas avoir ces langues de feu, mais seulement le signe du parler en langue. Mais ils ignorent qu'au commencement du XXe siècle, quelques serviteurs de Dieu ont également reçu cette merveilleuse grâce. L'autre signe de la présence du Saint-Esprit, tellement discuté, celui du parler en langue, a été promis par le Seigneur Jésus selon saint Marc, chapitre 16, verset 17. Cela est très important, car une fois que Dieu a pu prendre notre langue pour nous faire parler, il peut nous donner une parole enflammée qui brûlera le cœur de ceux qui nous écouteront comme le furent les auditeurs de l'apôtre Pierre. Le grand besoin de l'Église au XXIe siècle, c'est que chacun soit rempli du Saint-Esprit, et cela est la troisième personne de la Trinité, car seulement ainsi elle pourra faire face à la grande persécution qui peut-être plus vite qu'on pense surviendra sur la terre. Ainsi chaque enfant de Dieu pourra être debout pour l'enlèvement ou l'avènement de notre bien-aimé Seigneur. Voyez-vous, nous arrivons à la dernière et cinquième petite étude qui concerne l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église actuelle. Il est dit dans Matthieu, chapitre 3, verset 12, « Il a son vanne à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est assez sérieux. Mais avant, je voudrais rassurer quelques frères et sœurs qui pourraient avoir mal compris quelque chose qu'on leur rabâche parfois. Il y a des serviteurs, pas toujours débordants d'amour et de charité et de compassion, je ne leur en veux pas, nous devons les aimer, mais ils ne débordent pas de trop. Alors, ils disent, si il y a d'entre vous des hommes et des femmes, des frères et des sœurs, qui ne parlent pas en langue, eh bien, malheureusement, ils ne seront pas acceptés au ciel. Ils iront en enfer. Ils disent pas toujours le dernier mot que je viens de dire, mais c'est tout pareil. Eh bien, je vais vous rassurer. Savez-vous que au 18e et 19e siècle, il y a eu des dizaines de milliers de célèbres hommes et femmes de Dieu extraordinaires qui nous ont apporté des richesses spirituelles incomparables qu'on n'est même pas capable en parlant en langue de faire. Et ils ont écrit des ouvrages hors du commun pour expliquer les Saintes Écritures. Il y a le Pulpit Commentary, il y a d'autres comme de Matthew Henry's Commentary, qui est hors du commun. Il y en a beaucoup d'autres, The Bible Illustrator, et j'en passe. Ces hommes-là ne parlaient pas en langue. Lloyd-Jones ne parlait pas en langue. Et de nombreux autres, dont je ne me rappelle pas tous les noms, mais j'avais tout de même plus de 6000 livres des plus célèbres serviteurs de Dieu et servantes de Dieu. J'ai dû en liquider les 90%, manque de place, et parce que je suis beaucoup trop âgé maintenant, et quand ils débarrasseront tout ça, ils mettront tout dans des containers, et donc moi y compris peut-être. Donc, voyez-vous, je peux simplement vous rassurer que ceux qui sont sauvés, ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, vont faire partie de cet enlèvement. Soyez-en assurés. C'est avec amour et compassion que je vous le dis. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On ne va pas faire une espèce de racisme bizarre avec des chicanes entre nous. Toi, tu es de première classe. Moi, peut-être, va savoir, fera partie du wagon pour les bétails dans le chemin de fer. Alors, donc, cette cinquième partie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église actuelle, et vous pouvez noter Saint Matthieu, chapitre 3, verset 12. L'effusion du Saint-Esprit que Dieu donne ces derniers temps, selon la prophétie, est d'une importance capitale, car elle marque l'heure à l'horloge de Dieu. Elle est envoyée en vue d'une préparation spéciale de l'Église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit vient comme au premier jour sur les croyants qui le recherchent, et il fait une œuvre dans l'ensemble de l'Église, aussi bien que dans la vie de chaque croyant, mais œuvre analogue à celle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus-Christ, et puisque Jésus-Christ devait paraître comme fils de l'homme, son précurseur était apparu de la même manière, un simple homme rempli du Saint-Esprit. Nous attendons le retour de Jésus-Christ, mais cette fois-ci, il enlèvera son Église dans la gloire avec lui et s'est accompagné de son armée céleste pour établir son règne sur la terre qu'il apparaîtra. Il est donc certain que ceux qui seront enlevés de cette terre pour paraître devant leur Seigneur doivent être vraiment préparés pour un tel événement. C'est pour les y préparé que le Saint-Esprit est envoyé aujourd'hui comme avant-coureur pour aplanir les chemins du Seigneur et pour ôter de son Église les choses qui ne le glorifient pas. Voyez-vous ? Oui, en effet. Donc, je peux dire, ce n'est pas la doctrine uniquement, si pure soit-elle, qui va nous donner une vision de ce jour-là, mais seulement, je répète seulement, l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi chaque enfant de Dieu sauvé, sauvé par le sacrifice de Jésus, doit d'être rempli du Saint-Esprit. Si l'effusion actuelle est donnée pour nous préparer spirituellement à paraître devant Jésus dans sa gloire, le chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit est-il réellement prêt pour le retour du Seigneur? Je n'ai pas dit, et ils n'ont pas parlé là, qu'il fallait qu'il parle en langue pour être sûr qu'il est baptisé. Il n'en est pas question là. On peut être baptisé du Saint-Esprit dans le sens d'avoir reçu une motivation, un zèle extraordinaire pour le servir beaucoup mieux qu'auparavant. Le Seigneur y donne comme il veut, pas comme nous voulons exiger. Aux uns il donne ceci, aux autres cela. Il a son van à la main, et cela pour séparer le blé d'avec la balle. L'Église est comparée dans les Saintes Écritures au blé céleste, et le Seigneur est certainement le grain de froment qui est tombé en terre et qui est mort, afin que par sa mort, il puisse porter beaucoup de fruits. L'armée des rachetés, ça représente la moisson céleste. Saint Jean, chapitre 12, verset 24. Nous pourrions comparer le grain de froment à la vie de l'esprit et la balle à la vie de la chair. Avant que le grain de blé n'arrive à maturité, il est porté et couvert par la balle. Ainsi, avant de s'épanouir, la vie spirituelle est cachée par la vie naturelle, la vie selon la chair, évidemment, mais au fur et à mesure que le grain mûrit, la balle prend moins de place et se détache. Il en est de même de la vie de l'Esprit-Saint, et si nous voulons être enlevés auprès de Jésus-Christ, il faut que le grain de blé soit séparé complètement de la balle, que la vie selon la chair ait disparu devant la vie spirituelle. Jésus agit par le Saint-Esprit pour séparer en nous l'esprit charnel d'avec le spirituel et ainsi il nous prépare pour l'enlèvement. Il est impossible à celui qui vit selon la chair de plaire à Dieu. Et si nous laissons le van céleste pour faire son travail, il nous manifestera les péchés cachés et le manque de sanctification, les liens de la chair qui nous retiennent toujours et qui empêchent le fruit de l'esprit de se manifester. Un regard sur le monde actuel nous montre qu'il est mieux préparé pour l'Antéchrist que l'Église ne l'est pour Christ. Mais, alléluia, quand on donne libre cours au Saint-Esprit, ça change, il fait son œuvre, il nous prépare pour être un peuple élu. Et malheur à nous si nous bridons cette œuvre bénie, si nous la refutons, si nous la cachons ou la méprisons. Certes, nous ne sommes pas parfaits, et moi non plus, mais nous voulons laisser le Seigneur nettoyer son air. Les scandales ne peuvent rester cachés, mais lorsqu'ils sont révélés par l'action de l'Esprit-Saint, ils nous permettent d'ôter l'interdit du milieu de nous. Oui, le Seigneur Jésus nettoiera son air. Jean-Baptiste avait un message qui peut se résumer par le verset suivant. Saint Matthieu chapitre 3, verset 3. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur et aplanissez les sentiers. » La chrétienté ressemble à un désert où il n'y a guère signe de vie. Les fruits de l'esprit manquent tellement, et la verdure plantée par l'Éternel est si rare. Si les fleuves d'eau vive ne coulent pas selon la promesse de Jésus-Christ, Saint Jean chapitre 7 verset 37, comment ce désert se changera-t-il en pays fertile? Pour terminer notre étude, il est dit, il amassera son blé dans le grenier. Gloire à Dieu. Tous les petits grains de blé seront séparés de la balle et ils se trouveront devant celui qui leur a donné la vie et même qui leur a donné la vie abondante. Nos petites communautés spirituelles disparaîtront en ce jour-là et nous serons réunis dans le grenier céleste, semblable au divin grain de blé qui est tombé en terre et qui se réjouira de voir cette moisson merveilleuse que sa mort a fait croître. Au milieu de l'assemblée, Jésus-Christ nous conduira avec des chants de victoire à la gloire de Dieu son Père, qui, selon son dessein éternel, a préparé son peuple pour le triomphe final, l'union avec son Fils bien-aimé. Chers amis, c'est ça que ce jour puisse venir bientôt. Amen. Amen. Et je voudrais maintenant vous donner quelques paroles que j'ai reçues dans le cœur pour vous les transmettre. La peur est un mal. Bannissez la peur. La peur est un mal. Et l'amour parfait bannit la crainte. Dans le cœur où le Seigneur habite, il n'y a pas de place pour la peur. La peur anéantit l'espérance. Mais quand l'amour est là, et la foi, la crainte s'évanouit, la peur est la grande malédiction qui pèse sur le monde. L'homme a peur, il a peur de la pauvreté, peur de la solitude, peur du chômage, peur de la maladie. Les craintes de l'homme sont innombrables. Une nation en craint une autre. On ne rencontre partout que des êtres qui ont peur. Combattez la peur comme la peste. Chassez-la de votre vie et de votre maison. Combattez-la, chacun pour votre compte. Combattez-la ensemble par la prière. Ne cherchez jamais à inspirer de la crainte. C'est un mauvais allié, même quand il s'agit de la crainte du châtiment ou de la crainte du blâme. Rien de ce que on fait avec cet allié, qui est l'ennemi, ne peut être fait pour Dieu. Bannissez-le. Il y a une autre façon d'agir, infiniment meilleure. Demandez-la au Seigneur et il vous l'enseignera. Sachez aimer et vivre. Travaillez pour le Seigneur, avec le Seigneur et à travers le Seigneur. Pour qu'un travail soit valable, il doit être fait avec mon Esprit Saint, c'est-à-dire avec l'Esprit Saint du Seigneur, vous l'avez compris. C'est dans le silence que besoigne son esprit. Et c'est doucement et graduellement que les âmes sont conduites jusque dans son royaume. L'amour et le rire de bon aloi sont comme le soc qui laboure le sol et le prépare à recevoir la semence. Rappelez-vous bien cela. Sur un sol trop dur, le grain ne lèvera pas. Préparez donc le terrain, préparez-le comme le Seigneur vous l'a dit dans les Saintes Écritures. Amen. Et maintenant, nous allons terminer ensemble par la prière, tout simplement. Cette prière, elle est valable, comme toujours, pour tout un chacun. Je veux essayer de prier lentement, que vous puissiez prier après moi. Prions. Je t'en supplie, Seigneur, entends ma prière. C'est toi qui me l'as inspirée et confiée, et cela avant même que je ne crie vers toi. Daigne prêter attention à ma supplication. Tu ne daignes certes pas de me regarder, moi qui me suis égaré. Seigneur, toi qui as pitié, tu ne m'as certainement pas inspiré cette prière en vain. Tu ne me l'as pas confiée pour qu'elle ne porte pas de fruits. Tu me l'as inspirée pour que tu puisses m'exaucer. Tu m'as inspiré de demander ton aide pour que tu puisses avoir pitié de moi, pauvre pécheur. Tu m'as déjà donné les prémices de ta miséricorde. Merci pour tout l'amour que tu nous donnes. Amen. Et chers amis, un petit mot pour ceux qui ont dans leur famille ou pas bien loin un malade qui peut-être est encore jeune et qui de ce fait aimerait servir le Seigneur qu'il ne pourra pas s'il reste mourant dans son lit. Eh bien, vous pouvez aller auprès de cette personne vous-même, sans hésitation, sans avoir une préparation phénoménale. Est-ce que moi j'ai une préparation phénoménale avec 4 ans d'école primaire, 5 marâtres qui m'ont battu tellement que j'ai dû fuir pour sauver ma vie? J'ai fait aucune étude. Aucune. Et j'aime le Seigneur tout simplement. Et la plupart d'entre vous ont un beaucoup plus grand bagage que moi. Alors, allez près de la personne malade et dites simplement, Seigneur, tu es venu aussi bien pour sauver ceux qui sont perdus que pour rétablir ceux qui sont malades. J'apporte cette personne, je te l'apporte à tes pieds, et je te demande de la toucher, toi, avec tes mains meurtries, où tu as versé ton sang précieux pour nous sauver, mais aussi pour nous délivrer des pires calamités qui s'abattent sur ce monde. Eh bien, restaure, je t'en supplie, cette personne. Guéris-la. Si je la touche maintenant, symboliquement, avec ma main, que ce soit ta main qui tienne la mienne sur elle, et que ce soit ta main qui utilise simplement ma main, comme tu utilises ma bouche actuellement par le Saint-Esprit, eh bien, tu la guéris. Que maintenant, la puissance des guérisons puisse influer en cette personne et puisse neutraliser la maladie, quelle qu'elle soit, pour anéantir le mal qui voudrait la détruire. Et je te demande de chasser par ton saint nom toute influence mauvaise qui pourrait être indirectement la cause de cette maladie et de neutraliser totalement, de rétablir le métabolisme complet, de redonner l'impulsion de la vie saine qui va donc partir maintenant vers elle pour traverser tout son corps et la rétablir pour pouvoir te servir. Donne à cette personne aussi de comprendre l'importance qu'on n'est pas guéri pour continuer de pécher encore pire qu'avant, mais qu'il faut qu'il y ait un changement radical et que cette personne puisse le comprendre par l'amour, la charité, la compassion que tu lui donnes maintenant dans son âme, cœur et esprit. Et nous le demandons ensemble. Tu dis que là où deux ou trois, même que deux, sont d'accord d'une façon unanime, parfaite, sainte, sans embâge, eh bien tu réponds. Eh bien nous te demandons de répondre maintenant. Et nous disons merci par la foi. Merci parce que tu le fais. Gloire, louange et sainteté soient rendues à ton saint nom, d'éternité en éternité. Amen. Au revoir, mes très chers amis, et j'espère de tout mon cœur, j'en suis sûr, que cette prière improvisée par l'Esprit Saint va agir. Au revoir, à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, que le Seigneur vous bénisse.